Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Après un faux départ il y a quelques semaines, le procès Big Malion a démarré aujourd'hui. Il s'agit de juger qui a fait quoi dans les dépenses excessives de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Au fil du temps, tous les partis ou presque ont été concernés par ces questions. La campagne de 1995, par exemple, a été marquée par des irrégularités, sanctionnées depuis ou pas. Des questions se posent pour la campagne de 2017. Alors qu'une autre séquence électorale commence, jusque dans un an, faut-il assouplir ou au moins faire évoluer les règles du financement politique? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui. Dans ce studio, nous sommes avec Éric Halte. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de l'association Anticorps de lutte contre la corruption et pour le rétablissement de l'éthique en politique. Nous sommes aussi en ligne avec Aurore Gorius. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste d'investigation pour le site lesjours.fr et vous écrivez notamment, particulièrement, sur ces questions de financement politique. Et aussi avec Romain Rambaud. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes, spécialiste du droit électoral, fondateur du blog du droit électoral et auteur du livre « Le droit des élections et des référendums politiques ». C'est paru aux éditions LGDJ. On va d'abord se concentrer sur l'actualité du jour et l'ouverture du procès Big Malion. Aurore Gorius, vous connaissez donc parfaitement l'affaire, même si elle est foisonnante, avec des fausses pistes qui nous ont un peu entraînés sur beaucoup de sujets. Comment est-ce que vous pouvez nous résumer cette affaire Big Malion?
L'affaire Big Malion est une affaire relativement simple. C'est vrai que le procès a rouvert aujourd'hui après avoir été renvoyé mi-mars. C'est une affaire assez simple. C'est tout simplement sur la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. La campagne de Nicolas Sarkozy, les comptes de campagne ont dépassé le plafond autorisé de 22,5 millions d'euros. Et ce plafond a été dépassé de façon très conséquente, puisqu'il a été dépassé d'environ 20 millions d'euros.
Donc c'est quasiment le double, donc.
Ouais. Exactement, avec en plus derrière un système de fausses factures et de double facturation qui partait de son agence de communication Big Malion, d'où le nom de l'affaire, et cette double facturation était faite avec le parti, l'UMP, qui soutenait Nicolas Sarkozy à l'époque. Et c'est un système de double facturation qui a été découvert par révélation de presse, qui avait échappé à la commission des comptes de campagne, et qui a été découvert, enfin révélé par la presse, ensuite, après, à partir de 2014. Mmh. Voilà.
Éric Halte, comment réagissez-vous à l'ouverture de ce procès et qu'en attendez-vous surtout?
Moi, ce que je constate, c'est que on a des bonnes règles pour les élections, plafonnement des dons, plafonnement des dépenses. Le problème, c'est que ces règles ne sont pas effectives. Parce que faisons un peu de politique fiction. Imaginons que Nicolas Sarkozy l'ait emporté en 2012. Que se serait-il passé? Bien rien. Peut-être il aurait payé 11 millions. Et pour le reste, de toute façon, il est inviolable pendant l'intégralité de sa présidence. Et après, éventuellement, il aurait été poursuivi pour les faits que l'on connaît. Je crois qu'il faut faire évoluer très, très nettement, très sensiblement les règles. Et par exemple, organiser un contrôle continu des dépenses pendant la campagne. Aujourd'hui, la commission des comptes de campagne reçoit les comptes postérieurement, elle les apprécie postérieurement. Elle n'a même pas la possibilité, ce qui lui aurait été utile dans ce dossier, de faire la comparaison entre les comptes de campagne d'un candidat et les comptes du parti. Et je pense que effectivement, ce système, il est fait, au moins pour les présidentielles, mais il est fait pour ne pas être effectif.
Romain Rambaud, même question. Ce procès, qu'en pensez-vous et qu'en attendez-vous? Une clarification?
Alors, c'est un procès important parce que l'affaire Big Malion et l'affaire judiciaire qu'on constate aujourd'hui est sans équivalent d'une certaine manière, parce que le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012-2013, même si la commission n'avait pas tout vu, était déjà un phénomène important. Vous avez parlé de la validation des comptes de campagne de Jacques Chirac et d'Edouard Balladur en 1995, et jusque-là, seuls des comptes de petits candidats avaient été rejetés.
Oui, on va le rappeler, Romain Rambaud, à l'époque, pour la campagne de Jacques Chirac en 1995 notamment, le Conseil constitutionnel avait fermé les yeux, tout simplement.
Absolument, sur les comptes de campagne de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur. Et Édouard Balladur vient d'être relaxé par la Cour de justice de la République, ce qui n'a sans doute pas plu à Éric Alpe au passage.
Non, moi, au moins, il a été jugé.
Voilà. Le procès Sarkozy sur Big Malion est très important parce que c'est le volet pénal de l'affaire. C'est-à-dire pas seulement le volet administratif, celui du contrôle des comptes de campagne par la Commission, mais le volet pénal, c'est-à-dire la sanction pénale et l'établissement des responsabilités sur le volet pénal de l'affaire. Alors on peut regretter que les sanctions soient faibles, puisqu'à l'époque elles étaient très faibles, hein, 1 an d'emprisonnement, 7 500 € d'amende. Elles ont été renforcées depuis, mais sur le plan symbolique, c'est très important aujourd'hui qu'il y ait une action pénale, voire une sanction pénale, pour condamner ce type de pratique, même si Éric Alpe l'a dit, et je le rejoins, que c'est dommage qu'on n'ait pas un dispositif plus effectif pour la présidentielle en amont, mais le fait qu'il y ait cette procédure pénale aujourd'hui, c'est très important pour la probité des responsables politiques.
Éric Alpe, vous nous avez dit tout à l'heure que nous avions de bonnes règles de financement et de contrôle. Le but de ces règles, c'est déjà d'assurer l'égalité entre les candidats, c'est l'idée.
C'est d'éviter que l'emprise de l'argent ne soit trop importante sur les élections politiques. Parce que sinon, il y a toujours une surenchère possible. Songez qu'aux États-Unis, à la dernière campagne, on a dépensé 11 milliards. Donc l'équivalent 11 milliards de dollars. Donc si on se rapporte au nombre d'habitants, ce serait environ 1,5 milliard d'euros pour l'élection française. Donc il y a toujours une surenchère possible. Et effectivement, il faut éviter cette surenchère et éviter que l'emprise de l'argent sur les élections politiques. Alors, l'emprise de l'argent en termes de dépenses, on pourra aussi parler de l'argent en termes de recettes. Parce que je ne suis pas sûr que les règles qui plafonnent les dons, plafonnement à 7 500 € pour un parti, à 4 600 pour un candidat, soit des règles qui permettent véritablement l'égalité, en tout cas des Français. Je crois que les plus riches ont sensiblement beaucoup plus de propension à donner 7 500 €. Et d'ailleurs, c'est nous tous qui payons une partie, puisque lorsque vous faites un don à un parti ou à une campagne, il y a 66% qui peuvent être déduits des impôts.
Et il y a un remboursement des frais de campagne à condition qu'on fasse plus de 5% des suffrages.
Voilà.
Alors
en réalité, tout ça ne coûte pas très cher. Ça coûte 175 millions d'euros environ entre le remboursement des partis, le remboursement des frais de campagne et les déductions fiscales. Mais je pense que ces 175 millions qui sont le prix de la démocratie, et c'est normal, pourraient être employés différemment.
Aurore Gorius, je ne vous ai pas oublié, hein, mais donc on parle là de la campagne de 2012, c'est-à-dire il y a deux mandats, deux quinquennats, ou quasiment. Les règles qui s'appliquaient alors, est-ce qu'elles sont toujours valables aujourd'hui ou est-ce qu'elles ont évolué ?
Non, elles n'ont pas changé et c'est un peu ce qui est un peu étrange dans cette histoire, c'est que en général, les grosses affaires type l'affaire Big Malion, avec l'importance qui a été rappelée, hein, c'est une affaire importante. En général, ces affaires, quand elles sortent, elles conduisent à des changements, à une évolution de la législation. C'est ce qui s'était produit au début des années 90, après des affaires retentissantes de financement des partis politiques ou des campagnes à gauche comme à droite.
Hein, les affaires Urba, etc.
Voilà, l'affaire Urba, l'affaire DHLM de Paris. Et à la suite de ça, les règles de financement de la vie politique qui ont été établies en France en 1995, c'est celles qu'on connaît aujourd'hui.
Parce qu'il faut préciser, en fait, des règles de financement avant ces affaires-là, il y en avait pratiquement pas pour être...
Il y en avait pratiquement pas. Alors, la vie politique, les partis, les candidats étaient censés être financés par les militants. En réalité, ils allaient très largement chercher des financements privés. Et donc, ce que disait Éric Alpe, l'emprise de l'argent sur les élections, sur la vie politique, pouvait potentiellement être très forte. Et c'est ce qu'on a pu constater avec des affaires de financement de fausses factures à grande échelle, qui véritablement étaient des systèmes organisés sur toute la France. L'affaire Big Malion, en comparaison, est une affaire importante, mais relativement simple. C'est-à-dire, c'est une double facturation, le temps d'une campagne sur quelques mois, 6 mois. Hein. Et du coup, c'est vrai que ça pose vraiment question que la commission des comptes de campagne n'ait pas pu découvrir, elle a pu constater en faisant un contrôle sur pièce, que le plafond des dépenses avait été dépassé par la campagne de Nicolas Sarkozy, mais elle n'a pas découvert la double facturation, tout simplement parce qu'elle manque de compétences. Elle manque de moyens, elle manque de compétences, elle n'a pas de compétences, par exemple, pour enquêter. Elle ne peut pas aller voir des prestataires, par exemple. Elle ne peut pas demander des éléments à des prestataires sur une campagne, donc elle ne peut pas vérifier concrètement si une facture... En regard d'une facture, il y a une prestation vraiment concrète. Et donc, les fausses factures, elle ne peut pas vraiment les détecter. Donc, il y a un système de contrôle en France qui est assez inefficace et qui, du coup, amoindrit des règles qui sont plutôt assez avancées par rapport à d'autres démocraties occidentales. On a des règles de financement qui sont plutôt avancées, plutôt carrées, comme on dit. Mais derrière, on n'a pas le système de contrôle suffisant pour les appliquer et les rendre effectives.
Romain Rambaud, le problème, et je crois que nos deux autres interlocuteurs l'ont laissé entendre jusque-là, c'est le financement, c'est les plafonds de dépenses ou c'est le contrôle qui n'a pas les moyens ou qui n'est pas assez strict. Comment vous identifiez-vous le problème ?
Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes et le problème du contrôle est effectivement un problème très important. La législation a un tout petit peu évolué, mais c'est vrai de façon très marginale et la Commission n'a toujours pas les moyens de détecter ce type de problème. Et je pense que plus important encore, le fait que pour la présidentielle, il n'y ait pas de risque d'inéligibilité, c'est-à-dire d'annulation d'élection pour un président élu, est un véritable problème de fond. Et Éric Alt avait raison tout à l'heure de mentionner qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si Nicolas Sarkozy avait été élu dans le cadre de l'affaire Big Malion. Donc le problème de contrôle, il existe évidemment. Alors après, sur les règles de financement françaises, je partage un peu moins l'enthousiasme de mes collègues, puisque la France est un système extrêmement restrictif sur les règles de financement, mais aussi en amont. Et je pense qu'il faut faire le lien avec cette question-là en amont sur les méthodes de campagne électorale. C'est-à-dire que lorsqu'on restreint le financement des campagnes électorales, c'est qu'on décide de restreindre en amont les méthodes de campagne. Et la France, c'est un système extrêmement restrictif, puisque l'affichage est extrêmement limité à la campagne, aux panneaux d'expression libre. Il y a une interdiction de toute publicité commerciale en France, une interdiction de sponsoring sur les réseaux sociaux, l'interdiction pour les tiers d'intervenir dans les campagnes électorales, ce qui aujourd'hui pose aussi un certain nombre de problèmes. On a du mal à parler avec les électeurs, donc ça peut aussi favoriser l'abstention. On devient dépendant des médias, c'est-à-dire que les candidats n'ont pas d'autre solution pour faire campagne que de passer dans un certain nombre de médias, par exemple des chaînes d'information en continu, et donc ça devient difficile pour eux de contrecarrer en fait le mouvement médiatique qui s'impose progressivement. Et ce type de problèmes sont particulièrement saillants pendant la crise sanitaire, puisque c'est devenu extrêmement difficile de faire campagne en France en période de crise sanitaire. Donc il faut bien voir que derrière le problème du financement, il y a aussi le problème des méthodes pour faire campagne qui se posent. Mais c'est vrai que la culture française a cette réticence vis-à-vis des campagnes électorales et vis-à-vis du risque de l'argent, qui est très culturel en réalité, c'est très culturel.
Éric Alt, je ne voudrais pas qu'on se méprenne, hein, parce qu'on parle depuis le début de l'affaire Big Malion, on a parlé de Jacques Chirac, on a parlé d'Edouard Balladur, tout ça se passe globalement à droite, mais il y a des enquêtes sur les dépenses de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, de même que sur la campagne de Benoît Hamon. On voit bien que, hors campagne électorale, les affaires de financement via les assistants parlementaires, par exemple, se multiplient, il y a le Modem, le Rassemblement National. Est-ce que tous les partis français sont corrompus ou est-ce que c'est un problème global de financement politique et de règles en France ?
Alors, pour ce qui est de la corruption des partis, c'est un autre sujet. D'ailleurs, vous mêlez à la fois des questions qui concernent les dépenses de campagne
et les dépenses courantes,
des questions qui concernent les assistants parlementaires qui ont peut-être participé à des campagnes, mais le sujet n'est pas là. Non, je pense qu'en réalité, il y a une culture qui est aujourd'hui une culture un peu laxiste par rapport à tout cela. Et puis, il y a des lois...
C'est une forme de culture française. On définit des règles et puis on les applique pas vraiment.
Oui, mais alors, ça, c'est sûr. Mais je crois aussi que on ne gagne pas, il n'est pas bon de penser qu'on va gagner une élection politique par des démonstrations de foule, par de l'affichage, par de la publicité commerciale. Le législateur a souhaité restreindre cela, et à mon avis, en restreignant ses méthodes de campagne, il contribue, il a mis la première pierre à une éthique démocratique. Parce que la démocratie, c'est un choix entre des programmes, c'est un choix entre des idées. Ce n'est pas un choix, ça ne devrait pas être un choix
entre
commercial, publicitaire, de consommateur.
Aurore Gorius, vous le disiez, là, en 2012, la campagne Sarkozy a donc dépensé à peu près le double de ce qui était autorisé. Ouais. Et on peut se poser la question quand même, si on dépense à ce point de l'argent pour organiser des grands meetings, des mouvements de foule, comme le disait à l'instant Eric Alt, est-ce que les plafonds sont réalistes ?
Alors oui, parce que il faut se rendre compte que si Nicolas Sarkozy a à ce point dépassé le plafond autorisé, c'est que il avait prévu une campagne très courte avec 4 meetings. Donc il faut se rappeler donc à l'époque qu'il est président sortant, hein, il est à l'Élysée, à la fin de son quinquennat, il se dit je suis président sortant, j'ai fait une campagne très courte sur quelques mois. Il est parti fin février 2012 et il avait prévu 4 ou 5 meetings. Et puis au fur et à mesure de la campagne, il se rend compte que son challenger, son concurrent direct François Hollande, prend le dessus au fil des semaines et donc il va multiplier les meetings. À travers toute la France, il y avait des semaines où il y avait 3 ou 4 meetings par semaine, 3 ou 4 équipes sur les routes à travers la France pour organiser les meetings de Nicolas Sarkozy. Au lieu d'en organiser 4 ou 5, il en a organisé plus de 40. Et donc c'est de là que vient le dépassement du plafond autorisé. Donc il y a vraiment eu une surenchère, hein, dans la campagne de Nicolas Sarkozy qui explique ce doublement, ce dépassement de quasiment 20 millions d'euros. Pour le reste, on a vu d'autres candidats, par exemple en 2017, comme Jean-Luc Mélenchon, faire beaucoup de meetings. Il y a des questions sur ses comptes de campagne, mais il n'y a pas eu le même emballement. Ça a été plus étalé. Voilà. Là, il y a vraiment eu un dépassement qui s'est joué sur quelques semaines avec une inflation de meetings complètement imprévue et probablement un système fait à la va-vite qui a été d'ailleurs... Aujourd'hui, c'est dans le procès d'Imalion, ce n'est quasiment... plus le système de surfacturation, de fausse facture qui est jugé. Hein. Celui-là, il a été reconnu par des acteurs, il a été largement corroboré. La vraie question, c'est ce qui était dit juste avant, c'est de savoir qui était au courant, qui a commandité, qui a laissé faire. Donc c'est la question des responsabilités qui est posée dans le procès qui vient de rouvrir aujourd'hui.
La question pénale, comme le disait Romain Rambaud, vers lequel je me tourne à nouveau, pour lui poser la question que je posais à Eric Alt, peu ou prou, il y a quelques instants, est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie à fixer des règles strictes et à ne pas les appliquer, ou alors longtemps après ?
Si, bien sûr. Alors le problème n'est pas uniquement français, hein. Ce problème de contrôle, de transparence, on le connaît dans beaucoup de pays. C'est régulièrement soulevé par les organes de lutte contre la corruption, notamment internationaux. La classe politique a tendance, de manière générale, à résister dans une certaine mesure à ce qu'on la contrôle de trop près. C'est un constat un petit peu global. Les règles de financement, je pense que vous soulevez une bonne question, c'est la question des expédients. Alors c'est Jérôme Lavrieux qui parlait de cela dans son interview sur BFM TV. Il disait que tout le monde cherchait des expédients. Alors on a d'autres affaires, vous les avez citées, par exemple en 2017, il y a aussi la question des rabais sur le compte de campagne d'Emmanuel Macron, donc ce n'était a priori pas illégal, ça a été validé par la commission, mais ça montre quand même la nécessité de trouver des réductions de coûts pour éviter un emballement des dépenses. Et on a aussi la question de la primaire, qui est une question très intéressante de ce point de vue, puisque les règles d'imputation des dépenses des primaires au compte de campagne sont assez floues, et les primaires constituent aussi un moyen potentiellement de faire échapper un certain nombre de dépenses donc au compte de campagne. Il y a un problème inverse avec le système du financement public, c'est que les partis sont à la recherche de remboursement. Donc parfois, ils ont plutôt tendance à vouloir inscrire leurs dépenses sur leur compte de campagne pour pouvoir ensuite avoir des remboursements. Et c'était le cas de l'affaire de Jean-Luc Mélenchon que vous posiez tout à l'heure.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on surfacture les comptes de campagne pour se faire rembourser par l'État, c'est à peu près l'idée ?
Oui, et en fait aujourd'hui on a un problème, c'est que le financement est tellement public qu'aujourd'hui la préoccupation principale de la commission de contrôle des comptes, c'est presque plus de vérifier que les gens ne s'enrichissent pas indûment du remboursement des dépenses électorales que de vérifier que les plafonds sont respectés ou qu'il n'y a pas de financement illégal, par exemple. Mmh. Donc on est dans une espèce de logique cour des comptes, si vous voulez. On vérifie qu'en fait, il n'y a pas d'enrichissement indu sur la base du remboursement de l'État. Donc en fait, le financement très très public qu'on connaît, ça crée d'autres problèmes, en plus du problème de campagne électorale que j'évoquais tout à l'heure. Et sur ce plan, je pense que c'est quand même important de ne pas imposer sa propre conception aux électeurs. Aujourd'hui, les électeurs ont le droit de décider la manière dont ils ont envie de parler de politique. Et je ne pense pas que des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada ou l'Italie soient des pays moins démocratiques que le nôtre, à mon avis, bien au contraire. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi de développer cet aspect-là, mais ensuite, effectivement, d'avoir un contrôle plus efficace à côté.
Eric Alt. Tout augmente. les impôts augmentent, le coût de la vie augmente, tout augmente. N'est-il pas normal que les dépenses de campagne augmentent également aujourd'hui ? La publicité sur les réseaux sociaux, notamment, ça va être un des grands enjeux de la prochaine. C'était déjà dans la dernière campagne présidentielle. Est-ce que vous voyez une bonne raison pour que tout ça reste stable ?
La raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, on n'ira peut-être pas de problème de meeting cette année, encore que.
Il y en aura peut-être moins, sans doute, oui.
Mais il y aura d'autres problèmes avec les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un vrai sujet. Et il n'y a pas de raison de penser qu'on doit gagner une élection par l'argent. Il peut y avoir une corrélation entre les financements politiques et l'argent.
C'est carrément le cas aux États-Unis, hein, on le dit souvent.
Voilà, oui. Parfois c'est pas le cas. Par exemple, pour ce qui est de la campagne de 2012, Nicolas Sarkozy a fait 44 meetings, avec le coût que l'on sait aujourd'hui. François Hollande en a fait 12. Il en a fait 10. Donc on voit qu'il y a aussi d'autres considérations politiques qui déterminent le vote et pas seulement la campagne et pas seulement les frais de campagne. Donc je pense que si on veut avoir une campagne sur des idées, une campagne sur des programmes, on n'a pas besoin d'avoir cette inflation-là. Et en plus, cette inflation, elle est infinie, parce que s'il n'y a pas de barrière, j'ai cité le chiffre des États-Unis tout à l'heure, 11 milliards de dollars pour la dernière campagne.
Aurore Gorius, qu'en disent les responsables des partis politiques et notamment les trésoriers ? Quel est leur avis là-dessus ? Comment ils verraient une évolution des règles ?
C'est très variable et puis c'est parfois très langue de bois aussi. C'est vrai que la fonction de trésorier est une fonction qui n'est pas simple. Mais ce qui est vrai, par exemple sur les campagnes électorales, il y a plusieurs directeurs de campagne ou trésoriers de la campagne qui expliquent combien parfois c'est aussi compliqué quand on fait campagne d'arriver à mettre les bonnes dépenses au bon endroit dans les comptes et de vraiment comprendre toutes les règles de bonne gestion qui vont être ensuite contrôlées par la commission des comptes de campagne. D'où l'idée qui a déjà été évoquée et qui est promue par différentes associations de transparence de la vie publique, qui est de Anticor ou bien Transparency International, qui est de dire il faut un contrôle continu pendant la campagne avec des référents de la commission qui soient disponibles dans chaque écurie présidentielle, notamment puisque la présidentielle est vraiment l'élection reine en France, et donc qu'il puisse y avoir un référent qui, au fur et à mesure, puisse faire des recommandations, qui puisse être consulté pour éviter l'emballement des dépenses, parce qu'un emballement type Big Malion, type campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, aurait peut-être pu être évité s'il y avait eu un contrôle continu entre 4 meetings et 40 au bout de 2 mois. Évidemment, ça aurait pu se voir au fur et à mesure que les dépenses étaient en train de s'emballer. Et autre élément important aussi, pendant une campagne présidentielle notamment, les partis politiques font des prêts aux candidats. Ils font des prêts aux candidats, ils sont des ressources financières pour les candidats. Et donc il faudrait que la commission des comptes de campagne puisse avoir accès plus facilement aux comptes des partis. Pour l'instant, elle a surtout accès aux documents et aux pièces de la campagne, aux pièces comptables de la campagne, aux factures, etc. Mais elle a du mal, elle a un accès compliqué aux comptes des partis, alors que c'est justement dans les comptes des partis que l'on voit parfois des financements qui n'apparaissent pas dans les comptes de campagne et qu'on peut faire des recoupements.
Quand vous dites les partis politiques, Aurore Gorius, c'est les grands partis politiques, ceux qui sont visibles, hein, qu'on pignon sur eux, ou c'est les micro-partis, ou c'est tout ça à la fois ?
Typiquement, l'UMP, pendant l'affaire Big Malion, avait fait un prêt très conséquent pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Les grands partis. Tous les partis qui soutiennent des candidats sont susceptibles de faire des prêts. Mais évidemment, plus il y a d'adhérents, plus il y a une trésorerie conséquente, et plus c'est facile de faire des prêts à un candidat. Donc, les grands partis, de façon récurrente, sur chaque élection, font régulièrement des partis aux candidats, des prêts aux candidats, pour leur permettre de financer leur campagne, prêt qui est remboursé par la suite après la campagne.
Romain Rambeau, comment vous voyez une possible évolution ?
Écoutez, moi je l'ai déjà dit, mais je pense que les règles françaises largement sont dépassées. Il y a même un certain nombre de pratiques qu'on voit aujourd'hui classiquement, dont on pourrait interroger la légalité. Je prends une anecdote toute simple, mais l'Oriflamme, par exemple. C'est quelque chose dont on pourrait se demander si c'est conforme aux interdictions d'affichage qui sont prévues dans le code électoral. On l'a vu pendant la crise sanitaire.
Qu'est-ce que vous appelez l'oriflamme exactement,
Romain? Alors l'oriflamme, vous savez, ce sont des drapeaux qui sont attachés à une tige flexible et qui aujourd'hui sont régulièrement posés par des candidats quand ils font des campagnes électorales, par exemple. Si on applique le code électoral strictement, c'est interdit. Donc il y a énormément de... Et donc évidemment, personne n'interdit ça parce que ce n'est pas possible. Figurez-vous qu'avant 2011, la distribution de tracts était interdite dans les deux semaines qui précédaient le scrutin et personne ne respectait ça. On a vu pendant la crise sanitaire que c'est très difficile aujourd'hui de faire une campagne électorale avec les règles françaises qui sont exagérément restrictives au regard de ce qui existe dans les autres démocraties. Et par exemple, c'est le cas pour les réseaux sociaux, vous l'avez dit. Sur ces sujets-là, il faut avoir conscience quand même du caractère extrêmement restrictif des solutions qui ont été choisies par la France.
Éric Alt, règles extrêmement restrictives, trop restrictives, je m'imagine que vous n'êtes pas complètement d'accord avec ça.
Non, mais ce sont des règles qui ne sont pas effectives, c'est différent. Et donc s'il faut les faire évoluer, je dirais pour ce qui est du contrôle des dépenses, eh bien le contrôle continu au moins pour les campagnes présidentielles. Pour les partis, Jean-Louis Nadal proposait la certification par la Cour des comptes des partis qui reçoivent des fonds publics. Et pour ce qui est des recettes, c'est-à-dire des dons, je me référais au livre de Julia Cagé, Le prix de la démocratie, qui dit il faut entièrement remettre à plat le système des dons. Ce n'est pas normal que les plus riches cotise 7 500 €. Il faut donc qu'il y ait sans doute plus d'argent public. Et elle imagine pour ça des bons d'égalité démocratique qui permettent à chaque citoyen, à hauteur de ce qu'il contribue involontairement, puisqu'on contribue environ 3-4 €, par campagne électorale, qu'il puisse allouer, d'une façon qu'elle précise, ses dons à des partis. Donc il faut sans doute remettre à plat le système dans son entier, si on veut que ces règles soient effectives, car ce sont, je crois, de bonnes règles pour ce qui est du plafonnement des coûts.
Aurore Gorius, on en a parlé un petit peu avec Romain Rambaud, j'aimerais vous entendre sur ce qui se passe dans les autres pays, les pays voisins, comment ça se passe? Les règles sont différentes, évidemment, selon chaque pays, mais comment est-ce que c'est organisé?
Ah oui, ça dépend vraiment des pays. Non, mais ce qui a été dit est vrai. Hein, les règles françaises sont assez restrictives, y compris d'ailleurs avec cette contrainte de ne pas non plus s'exprimer sur les réseaux sociaux 24 heures avant le premier tour, interdiction de toute publicité politique avant le premier tour, avant le deuxième tour, dans une présidentielle.
Ça paraît totalement irréaliste comme ça, à l'entendre, de ne pas s'exprimer sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, cette règle pourrait éventuellement, effectivement, évoluer. Il y a des choses comme ça qui pourraient être revues. Mais me semble-t-il quand même que le plafonnement est une bonne chose, car si on regarde les élections américaines, ça a été cité parce que les sommes sont astronomiques, mais même des élections au Royaume-Uni où les plafonds sont quasiment inexistants, il y a des campagnes qui parviennent, notamment je pense à la campagne du Brexit, grâce à grand renfort de moyens et on a tous vu les bus du Brexit et les slogans du Brexit sillonner l'Angleterre, qui parviennent à grand renfort de moyens à peser fortement, grâce à l'argent, sur les campagnes électorales. Donc la limitation, la mesure, la modération de l'argent sur une campagne, la primauté donnée plutôt aux arguments, il y a tous les moyens de convaincre. Hein. Et les médias ouvrent largement leurs pages en période de campagne électorale. D'ailleurs, c'est un reproche qui est souvent fait aux journalistes et aux médias en période de campagne. Les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs disent souvent que les journalistes parlent trop de politique. Donc en fait, il y a toute la place à travers les médias pour convaincre, pour aller parler de ses idées, pour aller parler de ses convictions, du programme qu'on met sur la table, des promesses, les promesses de, par exemple, d'Emmanuel Macron pendant la campagne, on les a toutes en tête, hein. Je crois qu'elles ont bien été retenues par les électeurs. Je prends Emmanuel Macron parce qu'il a été élu, bien sûr. Donc en fait, il y a la place médiatique pour pouvoir promouvoir ses idées dans une campagne. Et il me semble que c'est relativement sain que le reste autour, la publicité, le marketing politique, soit bien encadré.
Merci Aurore Gorius, merci à nos autres interlocuteurs. Éric Alt qui était avec nous en studio et Romain Rambaud par téléphone. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve pour un nouveau débat lundi, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Protégez-vous, protégez les autres. Bonjour chez vous. Se rencontrer.